Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sidoudia, bonjour. En Côte d'Ivoire, accolade et sourire hier entre les anciens rivaux, l'ancien président Laurent Gbagbo et son successeur Alassane Ouattara. Notre correspondante Aïcha Diarra nous en parlera. Libération ce mardi de deux Mauritaniens enlevés au Mali le 18 juillet. En compagnie de trois ressortissants chinois lors d'une attaque contre un site de construction d'une route à quelques 55 kilomètres de la ville de Kouala, dans le sud-ouest de ce pays, non loin de la frontière mauritanienne. C'est ce qu'a indiqué une source proche du gouvernement mauritanien. Aucun détail pour le moment sur les circonstances de leur libération, le sort des trois chinois ou sur l'identité des ravisseurs. Au Cameroun, le ministère de la Défense a annoncé hier que 5 militaires et un civil camerounais ont été tués dans la nuit de lundi à mardi lors d'une attaque de Boko Haram dans l'extrême nord où les djihadistes multiplient les exactions. Des membres de Boko Haram ont été également tués, selon un communiqué lu à la télévision. Un casque bleu a été blessé et un membre des forces armées centrafricaines a été tué lundi soir dans une série d'attaques coordonnées de rebelles sur la ville d'Obo. Dans l'extrême sud-est, ont annoncé mardi l'ONU et des sources sécuritaires. Selon la MINUSCA, ces attaques ciblaient les installations des forces de défense et de sécurité centrafricaines, mais également la base des casques bleus marocains, l'UPC, et pointée du doigt. En République démocratique du Congo, les chefs de six confessions religieuses ont désigné hier tard dans la soirée le nouveau dirigeant de la centrale électorale en l'absence des catholiques et des protestants, pourtant majoritaires en termes de fidèles. La CINCO, Conférence des évêques catholiques, qui dirige la plateforme de huit confessions religieuses, ainsi que les protestants qui en sont aussi membres, soutiennent que cette désignation ne les engage pas. Les chefs religieux devaient pourtant continuer les débats aujourd'hui. L'année dernière, des troubles avaient éclaté dans le pays et mort d'homme s'en était suivi après une désignation du chef de la CENI dans une situation quasi similaire, nous dit Eddie Isango. En Tunisie, la principale formation politique du Parlement a appelé au dialogue ce mardi, indiquant être prête à des élections anticipées après ce qu'elle a appelé le coup de force du président Kais Saied, qui a notamment suspendu l'Assemblée et limogé le Premier ministre. John Lindon fera le point dans quelques instants. Plus de 1200 migrants ouest-africains ont été expulsés par l'Algérie vers le Niger depuis l'annonce de la réouverture de la frontière terrestre entre les deux pays le 14 juillet dernier, annonce l'OIM. Rosine Munezero nous donnera les détails. Les Américains vaccinés doivent à nouveau porter le masque en intérieur dans les zones à haut risque, une mesure imposée mardi par les autorités sanitaires, au moment où le variant Delta entraîne une forte hausse des cas, notamment dans les régions moins vaccinées. John Lindon y reviendra dans quelques instants. Signalons aussi que le président Joe Biden a estimé hier que les États-Unis devaient faire mieux en termes de vaccination contre le COVID-19 et il a précisé que la vaccination obligatoire des employés fédéraux était à l'étude. À l'ouverture d'une enquête parlementaire qui divise Washington, des policiers ont décrit ce mardi avec émotion la violence physique et verbale de l'assaut du 6 janvier contre le Capitole, racontant comment ils ont craint pour leur vie face aux partisans de l'ex-président Donald Trump. L'un a fait un arrêt cardiaque, un autre a subi des insultes racistes, un troisième a été aspergé de gaz irritant, écrasé, frappé avec sa propre matraque. L'auteur des tueries dans des salons de massage asiatiques à Atlanta et dans sa banlieue a été condamné hier à la rétention à perpétuité pour le premier volet de son attaque, mais reste passible de la peine capitale pour la suite de sa virée meurtrière. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, restez à l'écoute pour la suite de nos informations. La suite de nos informations en Côte d'Ivoire, le tête-à-tête Ouattara Gbagbo a finalement eu lieu entre le président Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo ce mardi. Une rencontre d'une heure au cours de laquelle les deux hommes ont évoqué plusieurs sujets d'intérêt national. D'Abidjan, notre correspondante Aïcha Diarra.
Enfin, excusez-moi, n'est-ce pas, monsieur le président?
Moment de convivialité, de sourire et rire partagés entre les deux hommes. Laurent Gbagbo décrit une atmosphère d'échange détendu et dit être très heureux de l'amitié et de la fraternité qui s'y dégageait. Les deux ont parlé de plusieurs sujets d'intérêt national. Ils ont surtout parlé des prisonniers politiques de 2010 à 2011 qui doivent recouvrer la liberté. Une préoccupation soulevée par Laurent Gbagbo.
J'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file et moi je suis dehors aujourd'hui et ils sont en prison et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer.
Après avoir remercié son ami et frère Laurent Gbagbo, selon ses propos, Alassane Ouattara a évoqué leur volonté à aller de l'avant avec la Côte d'Ivoire.
Nous avons décidé que c'était important de rétablir la confiance et de faire en sorte que les Ivoiriens se réconcilient, si c'est cela le terme important, mais se fassent confiance également.
Selon le président ivoirien, d'autres rencontres comme celle-là auront lieu après le mois d'août. Des rencontres qui seront plus élargies aux autres figures de la scène politique ivoirienne. Aïcha Diarra, Abidjan, VOA Afrique.
Plus de 1200 migrants ouest-africains, parmi lesquels des Nigériens, ont été expulsés par l'Algérie vers le Niger depuis l'annonce de la réouverture de la frontière terrestre entre les deux pays le 14 juillet, a indiqué l'Organisation internationale des migrations. Le point avec Rosine Mounezero.
Le 18 juillet, un convoi officiel de plus de 500 rapatriés nigérians est arrivé d'Algérie. Le 16 juillet déjà, 752 migrants originaires d'Afrique de l'Ouest sont arrivés à pied à Assamaka, ville nigériane la plus proche de la frontière algérienne, a indiqué lundi le bureau de l'OIM au Niger. Des ONG algériennes et internationales ont souvent accusé les autorités algériennes d'arrêter arbitrairement et d'expulser collectivement des ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne. La réouverture de la frontière terrestre entre l'Algérie et le Niger, fermée pendant 16 mois en raison de la pandémie de coronavirus, a été annoncée le 14 juillet par le président algérien Abdelhamadjid Tebboune lors d'une visite de son homologue nigérien Mohamed Bazoum. Selon les Nations Unies, l'Algérie a expulsé des dizaines de milliers de migrants irréguliers originaires d'Afrique de l'Ouest et du Centre depuis 2014.
Ici aux États-Unis, les centres de prévention et de lutte contre les maladies, principale agence fédérale de santé publique du pays, préconisent à nouveau le port du masque en intérieur dans certaines circonstances, même pour les personnes vaccinées. Précision de John Linden.
Le changement de recommandation est intervenu mardi au moment où le variant Delta provoque une forte résurgence des cas de COVID-19 aux États-Unis. Les principaux foyers se situent dans les zones où les campagnes de vaccination ont pris du retard. Les CDC recommandent aussi aux écoles d'adopter des masques pour tous, étudiants et professeurs confondus, s'écartant des directives publiées plus tôt ce mois-ci qui suggéraient que les personnes vaccinées n'avaient pas besoin de porter le masque en intérieur dans la plupart des circonstances, avec certaines exceptions, notamment dans les transports publics et les hôpitaux. Mais le variant Delta, qui compte pour environ 90% des nouveaux cas aux États-Unis, a changé la donne. Non seulement il se reproduit plus rapidement que les souches précédentes, mais les personnes infectées répandent bien plus le virus dans l'air, augmentant de manière importante la probabilité de transmission. Si les vaccins actuellement sur le marché restent efficaces contre les hospitalisations et décès, on observe de plus en plus de cas chez les personnes vaccinées.
Et maintenant les sports, la couverture spéciale des Jeux Olympiques de Tokyo avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous, elle est tchadienne et entre en compétition ce mercredi dans la discipline des judo dames. La judokate Demo Memneloum est la première tchadienne à se qualifier pour les Jeux Olympiques en gagnant des points, se classant 48e mondial dans la catégorie des moins de 70 kilos. Demo Memneloum a été médaillée de bronze au championnat d'Afrique 2019 et aux Jeux africains de 2019 à N'Djamena, sa ville natale. Les Tchadiens et sa famille sont déjà fiers de sa présence à Tokyo. Zakaria Hassan Brahim est son époux.
C'est vraiment chaleureux de l'avoir réalisé le rêve qu'elle voulait depuis son enfance, parce que participer aux Jeux Olympiques, c'est le rêve de tous les sportifs en fait. Et voilà, aujourd'hui, malgré les difficultés qu'elle a rencontrées pendant les préparatifs, elle a su remonter le moral et participer.
Paul Begui, le père de Demo, lui, espère voir sa fille remporter une médaille pour le Tchad.
On prie pour que Dieu la propulse jusqu'à l'autre au final et remporter un trophée pour le Tchad. Et ça sera un grand plaisir, c'est un honneur pour la patrie.
Paul Begui, père de la judokate tchadienne Demo Memneloum, qui entre en compétition, je le rappelle, ce mercredi face à l'Ouzbek Matniyazova Gulnuza. Dans l'ensemble, les nouvelles de médailles se font rares chez les Africains aux Jeux Olympiques, même si la Côte d'Ivoire, l'Égypte et la Tunisie se sont illustrées. Bagassi Koura.
Oui, en taekwondo, l'Ivoirienne Ruth Marie-Christelle Gbabi, médaillée de bronze à Rio en 2016, a décroché de nouveau le bronze grâce à sa victoire 12-8 devant la Brésilienne Milena Titonelli chez les moins de 67 kg. Dans cette même catégorie, médaille de bronze également pour l'Égyptienne Hedaya Waba, toujours en taekwondo, mais cette fois-ci chez les hommes. La grosse déception est venue de l'Ivoirien Cheikh Salah Cissé, champion olympique en titre. Il a été sorti dès les huitièmes de finale par le Marocain Achaf Mahboubi dans la catégorie des moins de 80 kg. Bonne nouvelle par contre chez les moins de 58 kg, messieurs. Le Tunisien Mohamed Halil Gendoubi, 19 ans, a remporté la médaille d'argent. Il a été battu en finale par l'Italien Vito Del Aquila. La Tunisie compte deux médailles après l'or enlevé par Ahmed Ayoub Hafnaoui à la surprise générale au 400 mètres nage libre. En judo, la Française d'origine togolaise Clarisse Agbenyenou arrache l'or dans sa catégorie des moins de 63 kg. Déjà 5 fois championne du monde et 5 fois championne d'Europe, Agbenyenou a défait la Slovène Tina Trstenjak qui l'avait battue en finale des JO 2016 à Rio.
Bagassi Koura, merci. Des nouvelles du tournoi de football féminin. La Zambie, seule représentante africaine dans le foot féminin, est éliminée. Et les Américaines se sont qualifiées pour les quarts de finale sans convaincre. Nani Talani.
Pour leur troisième sortie dans le tournoi de foot féminin, les Zambiennes ont été battues 1-0 par les Brésiliennes qui s'offrent du même coup la deuxième place du groupe F qualificative pour les quarts de finale. La Zambie est out. Elle qui a été battue 10-3 par les Pays-Bas lors de sa première sortie et qui a fait match nul contre la Chine. Dans le groupe G, les États-Unis se sont qualifiés pour les quarts de finale après leur match nul 0-0 face à l'Australie. Les Américaines ont terminé à la deuxième place de leur groupe. C'est la première fois qu'elles ne finissent pas une phase de groupe à la première place depuis les JO 1996 d'Atlanta.
Merci Nanit. Triste nouvelle pour les Américains, la superstar de la gymnastique Simone Biles explique son retrait du concours par équipe de gymnastique par des démons dans sa tête. Biles, 24 ans, a abandonné ses coéquipières lors de la finale remportée par la Russie devant les États-Unis et la Grande-Bretagne. La fédération américaine explique qu'elle s'est retirée pour des raisons médicales avant de conclure que des examens quotidiens détermineront si elle peut poursuivre les compétitions. De nouveaux cas de COVID-19 dans le village olympique. Les organisateurs des JO ont signalé 7 nouveaux cas liés au jeu, dont 2 athlètes. Les médias locaux ont rapporté qu'un joueur de tennis olympique des Pays-Bas et le personnel de sécurité des Jeux ont été contrôlés positifs au coronavirus. Depuis le 1er juillet, le village olympique, qui abrite environ 11 000 personnes, a enregistré 155 cas positifs au COVID-19. C'est ici que se referme cette page spéciale consacrée aux Jeux olympiques.
Merci Yacoub. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Tunisie, la principale formation politique au Parlement a proposé mardi des élections anticipées
après ce qu'elle a appelé le coup de force du président Kais Saied, qui a notamment suspendu l'Assemblée, tandis que l'Union européenne a appelé au rétablissement de la stabilité institutionnelle. Les États-Unis et plusieurs autres nations ont appelé au calme dans le pays après que de violentes manifestations ont éclaté à la suite de la suspension du Parlement dimanche. Le président tunisien a évoqué des pouvoirs d'urgence pour limoger le Premier ministre après des mois de manifestations contre l'aggravation de la crise économique. Reportage d'Henry Ridgewell à Londres, récit de John Linden.
Un nouveau chapitre s'est ouvert dans la lutte de la Tunisie pour la démocratie. La décision du président Kais Saied de limoger le Premier ministre et de suspendre le Parlement avec l'aide de l'armée a été qualifiée de coup d'État par ses opposants. Les législateurs d'Ennahda, le parti islamiste modéré et membre le plus puissant de la coalition au pouvoir, se sont joints lundi aux manifestations devant le Parlement.
C'est une tentative de violation de la Constitution et des valeurs du système républicain.
Le président tunisien a invoqué des pouvoirs constitutionnels d'urgence en annonçant la suspension du Parlement. S'exprimant lundi soir, il a rejeté les accusations de coup d'État.
L'article 80 de la Constitution donne au président de la République le droit d'entreprendre les démarches qu'il juge nécessaires face à un danger imminent. Nous demandons aux gens de ne pas descendre dans la rue. La chose la plus dangereuse à laquelle les pays et les sociétés sont confrontés sont l'explosion interne, les combats internes.
Le président Kais Saied a semblé encourager ses propres partisans alors qu'il rejoignait les manifestations à Tunis dimanche. Ils se sont félicités de la suspension du Parlement.
Nous avons repris notre pays. C'est la première fois que je sors dans la rue pour célébrer.
La crise a révélé les divisions politiques persistantes de la Tunisie qui se traduisent désormais par des violents affrontements de rue. Ce groupe a attaqué lundi des bureaux du parti Ennahda. Pendant ce temps, la police a perquisitionné et fermé les bureaux d'Al Jazeera en Tunisie. Cette crise politique fait suite à des mois de disputes et d'impasses. L'économie tunisienne a reculé de 8% l'année dernière après que la pandémie a frappé le secteur du tourisme. Les crises convergentes ont vu de fréquentes manifestations de rue ces derniers mois.
Il y a des griefs légitimes derrière la tourmente d'aujourd'hui. Il y a la pandémie de COVID-19. La tourmente croissante est essentiellement dictée par les chiffres et les nombres des morts en spirale, qui est le deuxième le plus élevé du continent. Et le second est la corruption endémique que le système post-démocratique n'a pas été en mesure de prendre en charge.
Washington s'est dit préoccupé par les développements en Tunisie et est en contact avec les dirigeants du pays. La Tunisie a été le berceau du printemps arabe en 2011. Les derniers développements menacent ses fragiles acquis, selon l'analyste Anas El Ghomati.
C'est peut-être un nouveau développement en Tunisie, mais ce n'est pas un nouveau développement dans la région. Les mouvements pro-démocratiques qui ont été déclenchés en 2011 ont été contestés à la fois localement et par des acteurs internationaux, notamment les monarchies du Golfe comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et même tout récemment l'Égypte.
Aujourd'hui, la jeune démocratie tunisienne est confrontée à son plus grand test depuis que les manifestations de rue ont renversé l'ancien dictateur Zine El Abidine Ben Ali il y a une décennie, et le résultat pourrait avoir des ramifications dans tout le monde arabe.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, plus de 1,3 million de personnes ont été déplacées par la situation sécuritaire, notamment dans le nord et l'est du pays. Des milliers d'entre elles vivent dans des camps de déplacés où elles dépendent de l'aide des humanitaires pour survivre. Dans une longue investigation publiée ce lundi, le magazine spécialisé dans les questions humanitaires, The New Humanitarian, rapporte des témoignages de plusieurs femmes déplacées qui affirment que des hommes leur ont demandé des rapports sexuels en échange d'une aide humanitaire. Pour en savoir davantage, Bagassi Koura a joint à Genève Eba Ali, la PDG du magazine The New Humanitarian.
On a découvert que des femmes qui avaient fui des militants en recherche de sécurité se sont retrouvées dans leur lieu de refuge, encore une fois en danger, des hommes locaux leur ont offert de l'aide humanitaire en échange pour des actes sexuels. Alors on a entendu de 8 femmes qui ont raconté aux journalistes de The New Humanitarian que ces hommes ont demandé des rapports sexuels en échange pour mettre les femmes sur des listes gouvernementales de ceux qui ont droit à la distribution de nourriture. Il y avait encore d'autres femmes qui nous ont dit qu'elles ont été demandées de payer de l'argent pour se mettre sur ces listes d'éligibilité. Et normalement, bien sûr, l'aide humanitaire est distribuée par les Nations Unies gratuitement et selon les besoins. Les femmes n'avaient aucune manière de savoir si ces hommes étaient vraiment liés à la distribution d'aide ou s'ils faisaient simplement semblant. Et même celles qui ont payé avec de l'argent ou avec leur corps n'ont enfin pas reçu d'aide humanitaire.
Est-ce qu'on sait si les autorités sont au courant?
Oui, alors la ministre d'Action humanitaire en Burkina Faso nous a dit qu'elle était consciente du problème et elle encourageait les femmes de rapporter l'abus. Le gouvernement a déjà un hotline que les femmes peuvent appeler. Des agences humanitaires aussi, conscients que ces types de problèmes peuvent apparaître, ils offrent des formations à leurs employés, des mécanismes de collecter du feedback des communautés. Mais malgré le fait que l'exploitation sexuelle est tellement commune dans des crises humanitaires et le fait que ça fait maintenant 3 ans que la crise au Burkina s'est intensifiée, néanmoins, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore un grand réseau entre les agences humanitaires pour empêcher et répondre à l'exploitation et l'abus sexuel. Alors les deux, le gouvernement et les agences humanitaires, ont été assez longs à mettre en place des mesures et jusqu'à aujourd'hui, de ce qu'on comprend, les agences humanitaires continuent à travailler avec ces listes en question.
Et ce qu'on a lu aussi dans l'article, c'est que le gouvernement bloque l'accès des sites des déplacés aux médias.
Exact. Il refuse d'admettre les journalistes. Il les interdit de visiter les camps de déplacés pour faire des reportages. Et alors, les habitants craignent que cela veut dire que l'abus et l'exploitation sexuelle sera ignorée. Et déjà, on a vu des représentants du gouvernement local qui nous ont dit qu'ils refusent d'admettre que l'abus a pris place.
Eba Ali, PDG du magazine The New Humanitarian, jointe à Genève, en Suisse. Au Congo-Brazzaville, les retraités du secteur public ploient sous une 30aine de mois d'impayés des pensions. Ces anciens fonctionnaires de l'État sont aujourd'hui incapables de faire face à des besoins vitaux. Le gouvernement affirme qu'il ne peut que leur verser un mois de pension chaque trimestre. Le point avec Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
C'est à Muyonzi, environ 330 km au sud-ouest de Brazzaville, que Jean Mukuyu, ancien militaire, s'est retranché pour vivre sa retraite loin de la vie chère des villes. Aujourd'hui, malade et alité, il n'arrive pas à faire face à ses soins médicaux, faute d'argent.
On est tous les jours sur la brède. C'est-à-dire, madame va au champ, elle amène la brède, elle pile. Vous mangez demain matin, encore fait la même chose à l'hôpital. On nous traite comme si on était toujours en actif. Mais avec la retraite qui arrive, l'argent qui arrive en rampant, à pied, comme je suis retraité comme ça, j'attends que le départ pour la mort.
Pour éviter d'accumuler des soucis dus au paiement irrégulier de sa pension, Antoine, mon petit bimbéné, vient chaque soir se balader à la place rouge de Muyonzi. Cet enseignant à la retraite a même oublié le nombre de mois que lui doit la crève, la caisse de retraite des fonctionnaires.
La pension, c'est rester du nom seulement, sinon c'est difficile. Comment ils font pour que le fonctionnaire soit payé demain? Mais la même gymnastique devrait revenir sur les pensionnés.
La situation de ces deux retraités de Muyonzi est celle que vivent tous les autres retraités du pays. Ils réclament entre 34 et 36 mois d'arriéré, voire plus, selon les cas. Le Premier ministre Anatole Coliné Makosso, présentant son programme à l'Assemblée nationale, avait avoué que le gouvernement ne pourrait payer qu'un seul mois dans le trimestre, soit 4 mois l'année. Il faut en effet 11 milliards le mois pour ces retraités. Mais le gouvernement ne peut rassembler que 4 milliards. À l'opposition, on crie au scandale. Pascal Sassimabiala en est le chef de file. Il lui demande au Premier ministre de rendre le tablier.
Il faut un débat national.
Ce n'est pas une question d'opposition, majorité, non. C'est une question vitale. Et le Premier ministre, en nous présentant la situation, a marqué son impuissance. Parce que la crise, ce n'est pas les retraités qui ont provoqué la crise pour qu'ils soient les seuls à la supporter. Et les autres Congolais, Mais un pouvoir qui veut vous avouer son impuissance, il démissionne.
L'Observatoire congolais des droits de l'homme propose le paiement à un montant pour tous les retraités en attendant les jours meilleurs. Le directeur exécutif de l'OCDH, Georges Nguila.
Que l'on dispense les retraités du paiement des factures d'eau et d'électricité pendant cette période et que l'on verse une pension standard à tous les retraités en attendant que le pays retrouve sa stabilité financière. Donc si on versait 200 000 francs chaque retraité chaque mois, je crois que le gouvernement pourrait quand même soulager la situation difficile des retraités aujourd'hui.
En début de cette semaine, le Premier ministre a reçu les syndicats des retraités et promet d'ouvrir la discussion sur cette question. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
La Turquie renforce ses liens avec les capitales sahéliennes, construisant des mosquées et des hôpitaux et ouvrant des marchés d'exportation. Toutefois, son pacte de défense avec le Niger conduit ses rivaux à suspecter ses intentions. Quelles sont les ambitions de la Turquie? Doit-on craindre une concurrence entre Ankara et les autres forces étrangères présentes au Sahel ou s'attendre plutôt à une coopération? Pour une analyse, Nanit Talani a joint en France Sédic Abba, journaliste et spécialiste des questions sahéliennes.
Ça fait longtemps que la Turquie est présente au Sahel, particulièrement dans des pays comme le Sénégal et le Niger, où la Turquie a construit d'importantes infrastructures, notamment dans le domaine aéroportuaire. Il y avait à côté de cela aussi la présence de nombreuses écoles turques. De plus en plus maintenant, la Turquie est aussi présente à travers la construction de cliniques turques importantes. À côté de cela, il y a une ambition d'Ankara aussi de faire de la production agricole dans un certain nombre de pays africains. Globalement, l'exportation de la Turquie vers l'Afrique ont atteint le niveau de 16 milliards de dollars en 2020, alors qu'il n'était que de 5 milliards dans les années 2000. Elle s'oriente aussi vers le nouveau marché que sont, par exemple, les pays du Sahel.
Que vise Ankara avec tous ces projets?
Le projet turc de devenir membre de l'Union européenne ayant été contrarié par des pays qui ne voulaient pas et compte tenu de la dégradation de ses relations avec ses traditionnels alliés, dont les États-Unis, la Turquie cherche de nouveaux alliés diplomatiques et l'Afrique, de ce point de vue, est un partenaire clé. La Turquie a même organisé un sommet Afrique-Turquie à Ankara qui a connu un grand succès. La Turquie veut capitaliser ses relations avec l'Afrique pour accroître son influence sur le plan économique diplomatique à travers les décisions du Conseil de sécurité, à travers des décisions au niveau des Nations Unies.
Sur le plan sécuritaire, la Turquie pourra-t-elle remplacer la France dont l'approche militaire vacille dans le Sahel?
Je crois que dans un premier temps, ce qu'on a vu, la Turquie a surtout circonscrit son engagement militaire en Afrique au niveau de l'Afrique du Nord. La Turquie a commencé à explorer aussi dans les autres pays la possibilité d'offrir un accompagnement technique, un accompagnement en équipement. Je crois que l'approche de la Turquie est totalement différente de la France, puisque la Turquie envoie des hommes qui partent au combat, qui équipent les forces de défense. Et ça peut être séducteur pour les pays du Sahel qui sont dessus aujourd'hui par les résultats de Barkhane. Ne parlons pas de façon diplomatique. C'est clair que la présence de Barkhane en 8 ans n'a pas permis de faire reculer l'insécurité. Et Ankara peut se positionner en un acteur nouveau dans le contexte aujourd'hui où la France décide de retirer une partie de ses effectifs. La Turquie peut avoir un rôle important à jouer, ne serait-ce que sur le plan de l'équipement. Parce que ce qui manque aujourd'hui pour la force du G5 Sahel, ce qui leur manque, c'est l'équipement.
Doit-on craindre une confrontation entre la Turquie et les autres forces étrangères présentes dans le Sahel ou on doit plutôt s'attendre à une coopération?
Je pense que ce serait plutôt une coopération. Il n'y aura pas de compétition parce que l'approche est différente. Les Turcs peuvent s'engager, ils peuvent envoyer des hommes, ils peuvent déployer des moyens plus facilement que les autres pays. Aujourd'hui, c'est que la présence des autres, la France et l'Union européenne, leur présence au Sahel, ils l'envisagent comme une sorte d'accompagnement aux forces de défense et de sécurité. De ce point de vue, je ne vois pas de rivalité. La Turquie va chercher à avoir une valeur ajoutée. Ce qui intéresse les Turcs, c'est de montrer qu'ils sont plus efficaces.
Sédic Abba, journaliste et spécialiste des questions sahéliennes, joint à Paris. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée.